invité, une playlist. Un mercredi soir sur deux, 20h-21h, Tour de piste est sur Principe Actif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour une émission consacrée à Elliott Smith. Ce musicien américain a marqué la scène rock des années 90 avec un style singulier, entre ombre et lumière. Un parcours à part que restitue Thierry Jourdain dans son ouvrage Can't Make a Sound, publié en 2018 chez Le Mot et le Reste. Il est à mes côtés jusqu'à 21h avec les artistes My North Eye et Elle Strange qui rythmeront l'émission par des reprises en live. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir. Salut Laurent.
Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Tour de piste. Donc tu avais déjà rédigé une bio de Bruce Springsteen en 2017. Comment s'est fait le choix d'écrire un livre sur Elliott Smith ?
Il s'est décidé un peu au fur et à mesure. En fait, ça n'a pas été un choix à proprement parler. En fait, j'écris toujours plusieurs choses en même temps. Et en fait, il s'est dessiné, esquissé au moment de pause d'autres écrits. J'ai redécouvert, alors c'est plutôt c'est agréable d'entendre la chanson que tu as choisie pour voir l'émission, en fait, Speed Trials, qui est la première chanson mon album préféré, en fait, Eyes or Or. C'est un album que j'ai beaucoup écouté, en fait, et c'est l'album qui m'a donné envie d'écrire sur Elliott Smith, et c'était un peu mon entrée, donc voilà, c'est assez touchant. Et à force d'écouter Elliott Smith, à une période où ça n'allait pas forcément fort, je me suis mis à prendre des notes et à vouloir en savoir un peu plus sur lui. Et j'avais déjà commencé à écrire le livre sans m'en rendre compte. Et j'étais déjà à l'époque en lien avec les éditions Le Mot et le Reste, en fait, pour un autre livre, sur REM, qui prend plus de temps. Et comme ça tardait un peu, on m'a demandé sur quoi j'écrivais ou s'il y avait des artistes... qui m'intéressait. Et quand j'ai commencé à envoyer juste les quelques notes que j'ai écrites sur Elliott Smith, bah, c'est vraiment eux en fait qui m'ont dit bah, t'as un début là. On conseillerait de d'approfondir. Et puis ça s'est avéré vrai puisque je l'ai écrit en très peu de temps. Voilà, en quelques mois, le livre était là.
Ça prendra un peu plus de temps pour Rem, hein, tu le disais, c'est une œuvre plus vaste, moins singulière peut-être aussi.
Plus irrégulière, oui, et puis plus de choses également à aller chercher, quoi.
Alors Ever Or, c'est 97, il me semble, hein, la date de sortie. Peut-être aussi pour nous, Français, un des premiers albums distribués, Les Inrecuptibles en ont beaucoup parlé. Est-ce qu'il faut se reconnaître dans le personnage quand on rédige sa bio? On reviendra aussi sur le terme de bio, qui n'est pas toujours bien approprié.
Oui, justement, en fait, c'est également ce que j'allais dire quand tu l'employais la première fois. Ma démarche, c'est pas du tout d'écrire des biographies au sens juste une accumulation de faits et de raconter tout ce qui a pu faire que la personne en est là aujourd'hui. En fait, c'est plutôt raconter une histoire. Et en ça, en fait, ce que j'ai essayé avec ce livre sur Elliott Smith, c'est vraiment de susciter la curiosité, l'intérêt, l'émotion à la lecture, sans que forcément on ait besoin de connaître la personne ou que on se dise est-ce qu'il a vraiment existé. Voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais ça pourrait être un personnage de fiction en fait. Mais c'est ce qui m'a intéressé, c'est un personnage romanesque en fait, Elliott Smith.
Et puis l'écriture comme l'émotion, c'est quelque chose de complètement subjectif.
Absolument, oui, bien sûr. Et donc pour répondre à la vraie question, s'il faut s'identifier à la personne. Je savais très très peu de choses sur lui, mais il y avait quelque chose qui passait en fait dans sa voix et dans ses mélodies qui me touchait profondément. Et je m'étais jamais vraiment intéressé finalement à ses mots et à sa démarche. Et plus j'ai approfondi, plus je me suis documenté, plus je me suis dit ah ouais, c'est pas par hasard, c'est pas anodin en fait si te touchait autant, c'est que effectivement ça faisait vraiment écho à mes propres problématiques et à mes propres émotions, aspirations, démons, voilà. Et,
on les évoquera justement ces mots qui marquent la musique d'Elliott Smith. J'ai parlé aussi, puisqu'on est toujours dans le livre, dans l'écriture, comment tu as fait tes recherches sur Elliott Smith? Enfin, sur quel matériau tu t'es basé pour la rédaction de tes notes et de ce livre?
Ouais, alors pour le coup, c'est un peu une question qui revient souvent quand on parle du livre et... Moi, ce que j'aime vraiment avant tout, c'est rencontrer les personnes dont je parle et la matière première, les avoir d'eux directement. Pour Elliott Smith, c'était compliqué puisqu'il était mort depuis pas mal d'années, donc il fallait se baser sur la matière qui existait. Et grâce à Internet, maintenant, en fait, on a accès vraiment à beaucoup de documentation. Donc j'ai écumé tout ce que j'ai pu trouver sur des documentaires, des vidéos, des interviews presse et le peu de livres qui existaient également sur lui, alors à l'étranger parce que c'est le seul livre qui est sorti en France et en Europe il y avait uniquement un livre en Angleterre, donc voilà, il y a un livre en Angleterre et puis 2-3 aux États-Unis, donc tous ces livres là je les ai lus, ça m'a pas forcément appris grand chose mais ça m'a en tout cas indiqué ce que je voulais pas faire en fait, tomber sur des travers un peu plus faits divers, à color, etc. et sur des choses qui finalement m'ont pas intéressé. Donc ça m'a permis de faire le tri, en fait, la matière en tout cas écrite qui existait. Et puis après, me baser sur ses chansons également, parce que le livre fait la part belle également à son écriture, où il y a eu un gros travail avec deux amis, artistes et musiciens, dont un qui est là ce soir, Yann.
On va en parler ce soir, justement, Yann et de la collaboration du lien avec ce livre.
Qui m'a aidé sur des traductions, parce qu'on a essayé d'isoler comme ça des paroles qui étayent vraiment mon propos, et de les traduire en fait au mieux, d'être assez fidèle à sa parole, et donc Yann, anglophile, a pu vraiment m'aider là-dessus, et Seb Miel de la Maison Tellier, donc qui m'a aidé sur des analyses musicales également, parce que et la musique et les paroles vraiment prennent tout leur sens en fait chez Elliott Smith. C'est pas forcément le cas sur d'autres artistes dont je parle, mais vraiment chez Elliott Smith, ça fait partie intégrante de son œuvre et de sa personnalité.
Et tu l'abordes cette bio de manière chronologique. Le choix de ce type de plante est venu comment aussi?
De vouloir raconter vraiment, comme je disais, une histoire et sous forme de chronique. J'aime beaucoup les parcours de vie et finalement, son histoire, elle commençait vraiment à sa naissance et elle s'achevait donc à son décès. Même si pour le coup c'est très succinct et ça représente très peu de pages, mais vraiment le point de départ et l'issue de son histoire, c'était vraiment sa naissance et sa mort. Donc la chronologie s'est imposée également d'elle-même, en fait, au fur et à mesure que j'écrivais.
Je propose qu'on fasse une première pause musicale avec Thomas, si tu es prêt.
Je sens ton regard.
Donc Thomas, tu vas nous interpréter...
Je vais interpréter Easy Way Out, qui est un titre qui figure sur l'album Figure Eight, qui moi est vraiment mon album préféré d'Eliott Smith. C'est un titre que j'ai enregistré aussi pour la compile, une compile qui est sortie. Alors, je sais pas si là tout de suite on peut en toucher un ou deux mots. Il y a une compile en fait qui est sortie via le label de Thierry et qui est fragile pour accompagner la sortie du livre. Alors, je pense que Thierry t'en parlera peut-être un peu mieux que moi là tout de suite, mais juste en quelques mots et après voilà.
On a avec Équilibre Fragile donc une association qu'on a montée sur Rouen avec quelques amis, dont Yann à nouveau, Yann Lafosse, qui est à la fois un magazine, une revue papier et un micro label. Alors de manière très humble et on est avant tout des passionnés en fait. On veut juste proposer des choses qui nous touchent au plus grand nombre on espère. Et donc on a sorti une petite compilation qui s'appelle Eliott Smith Tribute, où pas mal de groupes de Rouen, d'Evreux, mais également de Paris, Tours, Belgique, etc., américains, ont fait des reprises, en fait, et se sont complètement réappropriés, en fait, l'univers d'Eliott Smith au leur. Et donc, j'ai proposé donc, à Thomas, qui est là ce soir, et également donc, à Yann, de faire des reprises. Et Thomas s'est tellement pris au jeu que finalement, il s'est mis à en faire une, deux, trois, quatre, cinq, et c'est comme ça que maintenant il pourrait presque faire un tribute à lui tout seul de Figure 8. Et en plus, le voyou, il empiète carrément parce qu'il paraît qu'il travaille Between the Bars, voilà, carrément Eyes or Or, quoi.
You take a dance until you think you've been used. 'Cause without an enemy, your anger gets confused. I got stuck on the side, you know, I never chose. Well, it's all about taking the easy way out for you, I suppose. There's no escape for you except in someone else. Though you've already disappeared within yourself, the invisible man who's always changing clothes. Yeah, it's all about taking the easy way out for you, I suppose. What I want, you making mistakes. Wish you luck, I really do. The problem, the puzzle, whatever's left for you. Found another audience to bore. A creative thinker who imagined you more. A new body for you to push around and pull. Yeah, it's all about taking the easy way out for you, I suppose. Yeah, it's all about taking the easy way out for you, I suppose.
Merci merci Thomas. C'était merci. Sous le nom, ton nom d'artiste, c'est Elle Strange. Hein,
oui.
Je précise.
Ouais.
très belle reprise d'Eliott Smith. Preuve que longtemps après sa mort, il crée du lien. Et puis toujours des envies de faire de la musique, une musique singulière, assez touchante. On va revenir sur le personnage d'Eliott Smith. Lui, dans quel environnement musical il a grandi? Quels sont les artistes qui ont influencé Eliott Smith?
Alors Eliott Smith, il grandit en fait. Alors avant tout dans une famille éclatée et recomposée en fait, ses parents divorcent très rapidement quand il est encore bébé, et il a accès à la musique mais de manière radicalement différente les moments où il est avec sa mère et les moments où il est avec son père, donc une approche beaucoup plus classique, conservatrice de la musique avec sa maman en fait, où il apprend le piano notamment, et il a plutôt accès à une musique religieuse, et il a connaissance vraiment de tout ce qui va lui ouvrir des champs de la pop et du rock en fait par le biais de son père qui est donc parti habiter à Portland, et son premier choc c'est les Beatles, le White Album des Beatles, ou Helter Skelter, qui est pour lui une révélation. Son père voilà, lui met le vinyle, et il apprend que on peut faire une musique à la fois violente et en même temps pop. Finalement avec pas grand chose, et c'est ce qui lui donne envie de faire de la musique pour la première fois de sa vie en fait, quand il est encore tout gamin, et voilà. Et après il y a eu Dylan également.
Il gardera une espèce de classicisme de l'éducation musicale de sa mère ou pas dans,
oui, dans alors bah, justement donc Thomas parlait de Figure 8, et c'est vraiment l'album où ça ressort en fait, tous ces arrangements empreints de, comme tu disais, de classicisme, avec notamment le piano en fait beaucoup plus important que dans les autres albums, une structure, une rigueur assez importante. Après il a plutôt voulu s'en annexer et fuir un peu tout ça toutes les premières années, mais bon, on sait que ce qu'on fuit c'est pour mieux y revenir et se le reprendre.
On évoquera justement tout à l'heure Figure 8. Alors Eliott Smith, c'est le produit d'une époque, comme tous les artistes, hein, qu'on le veuille ou non. Comment définirais-tu l'époque dans laquelle il a grandi? Parce que là on est à Portland aux États-Unis, on est en pleine période grunge, incontestablement lui il est à contre-courant de cette tendance 2000.
Ouais. En fait il grandit donc dans les années 80, donc il naît en 1969 dans une petite ville du Texas. Donc c'est plutôt là où il fait ses premiers pas, et que c'est plutôt un endroit qui lui correspond absolument pas. Et Portland, Oregon, c'est donc, comme je le disais, c'est grâce à son père en fait qui lui avait déménagé. Donc pour lui c'était vraiment l'exultoire et une ouverture vraiment sur le monde, et pas que musical. Voilà, c'est ce qui lui a permis vraiment de prendre connaissance de pas mal de choses, et peut-être aussi de toucher également ce qui l'a pu l'amener vers des addictions.
Et puis, alors, pour revenir sur ton livre, le Texas, bon, on va en faire un portrait peut-être un peu. Bon, c'est très redneck, quoi. C'est un état du Sud avec des
ouais, bah lui,
des
du
gars,
coup,
c'est dur. Ils vont.
Alors autant d'autres artistes peuvent au contraire mettre en valeur et garder le côté touchant. Alors avec Yann, on parle pas mal en ce moment de Townes Van Sant, voilà, et d'autres artistes issus du Texas sur la country et la folk, qui pour le coup là vraiment en sens et mettre en valeur l'État. Eliott Smith, ça a été tout le contraire, ça a été tout ce qu'il a toujours vomi, vraiment. En fait, il a un tatouage, il avait un tatouage sur un de ses biceps qui était la carte du Texas. Et ça a été mal compris en fait à l'époque, parce qu'on croyait que justement il en était fier, il voulait comme ça mettre en avant l'État dont il était originaire. Et alors tu me demandais des fois donc, comment j'avais procédé. Donc j'ai trouvé une interview où justement il s'était exprimé là-dessus, et pour lui c'était le meilleur moyen de se souvenir à jamais en fait de cet état qui lui avait fait le plus grand mal, et ne jamais oublier en fait la violence et le mal que lui avaient causé justement les gens qui en étaient originaires. Donc c'était vraiment une véritable douleur, et d'ailleurs même c'est aussi un peu pour ça que il a choisi un autre prénom en fait. Il s'appelle Steve normalement, Eliott c'est pas son vrai prénom, Stephen Paul Smith, et il disait qu'en fait là où il était, c'était impossible d'avoir ce prénom là parce que c'était soit l'équivalent des rats de bibliothèque Steven en fait, ou Steve, l'espèce de justement de redneck footballeur américain, etc. Il se reconnaissait ni dans les nerds geeks, etc., ni dans les sportifs populaires, donc il n'était pas du tout à sa place.
C'est un garçon qui va avoir du mal à trouver sa place, on va le voir en cours de, enfin, dans la société.
Toujours. Toujours.
Du côté du rêve américain, en tout cas. On retrouve d'ailleurs dans ses textes les thématiques de l'abandon de manière assez récurrente. Il a une enfance assez douloureuse, Elliott Smith. Je cite, ton livre, la naissance même de la créativité ne peut être que le résultat d'une épreuve. Est-ce que la fragilité qu'on va retrouver dans ses disques, elle vient de cette enfance difficile?
Oui, bah après, sans vouloir forcément faire de la psychanalyse de bas étage, on sait, c'est avéré que ce qui nous constitue, ça se forme à la petite enfance, forcément. Alors, il a pas eu non plus une enfance malheureuse, mais il a eu des traumas, des choses qui l'ont, lui en tout cas, profondément marqué. À commencer, donc je disais, par la séparation de ses parents, l'éloignement, l'éclatement, l'abandon. Du noyau familial et en étant partagé comme ça entre deux formes de vie, deux formes de valeurs, c'est ce qui a aussi creusé un peu comme ça une douleur en lui. Et après il y a eu effectivement cette famille assez particulière du côté de sa mère avec un remariage avec un beau-père. Alors tu employes le mot à juste titre de redneck, donc c'était un sombre personnage qui était très violent et qui avait une vision très conservatrice en fait de la société et des êtres humains, et du coup ça a conditionné je pense beaucoup de douleurs et de souffrances pour Elliott Smith.
Et moi je propose qu'on fasse une deuxième pause musicale avec Yann, My North Eye pour son nom d'artiste. Je te laisse t'installer, Yann.
Your hand on his arm, a haystack charm around your neck, strung out and thin, calling some friend, trying to cash some check. He's acting dumb, that's what you've come to expect. Needle in the hay, needle in the hay. Needle in the hay, needle in the hay. He's wearing your clothes, head down to toes, a reaction to you. You say you know what he did, your idiot kid. You don't have a clue, sometimes they get caught in the eye. You are pulling them through. Kneel in the hay, kneel in the hay. Kneel in the hay, kneel in the hay. Now on the bus, almost touching his dirty retreat. Falling out, six and power, dead sweat in my teeth. Gonna walk, 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 four more blocks plus the one in my brain. Down, downstairs to the man's gonna make it okay. I can't beat myself, I can't beat myself, I don't wanna talk. I'm taking a cure so I can be quiet wherever I want. So leave me alone, you ought to be proud, I'm getting good marks. Needle in the hay, needle in the hay. Needle in the hay, needle in the hay. Needle in the hay, needle in the hay. Needle in the hay, needle in the hay.
Merci Yann. My North Eye. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut dire quelques mots sur ce morceau, Thierry ou Yann?
Oui, alors.
Pourquoi t'as choisi Yann, par exemple, cette reprise-là? Pourquoi celle-ci?
Vas-y, Yann.
Thomas a parlé de la compilation là, de Équilibre Fragile. Donc, moi, je suis Thierry dans tous ces projets. Il me dit, Elliot Smith, tu veux faire une reprise? Je me suis dit que j'y arriverais pas. C'est vrai que c'est un morceau que j'aime beaucoup, mais voilà, donc j'ai essayé de le. Je pense que la porte d'entrée de, par rapport à ce morceau-là, c'était le film de Wes Anderson, La famille Tenenbaum. Voilà, et je pense que Thierry vous dirait que je pense que Elliot Smith était assez mécontent de l'utilisation, parce que Elliot Smith est à la fois dans l'ombre et la lumière, enfin une musique très pop et des textes très noirs. Et là, il l'utilise que pour le côté noir du texte. Moi, c'est ce qui m'a attiré. Et j'ai essayé de le faire à la guitare, j'ai pas réussi du tout, donc je l'ai fait à l'harmonium. Et du coup, je l'ai fait pas du tout comme il y a dessus, j'ai fait du noir sur noir.
Très bien.
Voilà. Mais moi, je fais ça, voilà. Noir sur noir. Mais j'admire beaucoup le côté, justement, pas noir sur noir de Elliot Smith.
Voilà. Justement, on va parler de la dualité de cette personnalité. Sombre, le format pop de ses chansons lui donne, on parlait des Beatles tout à l'heure et de l'album blanc, lui donne un aspect léger et lumineux. Cette caractéristique, pour toi, Thierry, aussi, c'est pareil, c'est chez Elliot Smith, elle t'a particulièrement séduit?
Oui, oui. Alors moi, j'aime beaucoup. Je suis très pop en fait, comme garçon. Du coup, j'aime bien chantonner les chansons. J'aime bien avoir l'air qui reste comme ça en tête. Et je suis toujours plus touché par des textes, comme disait Yann, sombres et profonds. S'il y a le côté malgré tout mélodique, mélodieux en fait, parce que c'est aussi façon de mettre de la pudeur et de la distance.
C'est une forme de délivrance aussi, d'amener un peu de légèreté à des,
oui,
des
voilà,
textes,
oui,
sombres.
Parce que, alors après, quand ça peut être également très très bien fait, il y a beaucoup d'artistes où c'est noir sur noir, pour le coup. Yann le fait très bien également, hein, c'est noir sur noir, et trois albums admirables.
Il n'est pas du tout dépressif. Hein.
Mais pas du tout, et puis aucun d'entre nous, en tout cas à cette table. Mais t'as bien de la chance, toi. non, mais en tout cas, oui. Donc Elliot Smith, il avait toujours voulu en fait mettre beaucoup de pudeur et de distance en fait, et même de son vivant, il allait un peu finalement à l'inverse de ce qu'il mettait réellement dans ses chansons quand il en parlait. C'est que il disait souvent qu'il mettait en scène des personnages tout autres que sa propre réalité. Or, encore un coup, c'était beaucoup de pudeur et de distance, parce que en travaillant et en recensant énormément de matière, on a vraiment la preuve que, au premier degré, vraiment, chacune de ses chansons, de ses textes, de ses albums, en fait, c'était lui.
Il se livre complètement.
Au premier degré, vraiment, tout. Mais de manière, encore un coup, très intelligente, très fine. Yann a interprété Needle in the Hay, et c'est une chanson dont je dis on, parce que j'aime bien dire on, dont on parle dans le livre, un peu plus que certaines autres, parce que il y a l'utilisation de double sens, de polysémie en fait. C'est ce qui est permis par la langue anglaise en fait, c'est de pouvoir dire plusieurs choses avec un même mot ou une même expression. Et c'est le cas avec Between the Bars, et c'est le cas avec Needle in the Hay, où il y a une phrase voilà, où alors Yann, tu vas m'aider bien sûr, où c'est I'm getting good marks.
Ouais, à la fin de la chanson, donc le personnage dit Donc, you ought to be proud, I'm getting good marks. Et donc, tu devrais être fier de moi parce que j'ai de bonnes notes, marks, des notes chiffrées, 18 sur 20. Et c'est aussi des marques parce qu'il se droguait. Voilà. Donc, il y a un jeu de mots sur. Il y a un jeu sur marks. Et sur in between the bars aussi, c'est entre les barreaux et entre les barres. Tourner des barres et je suis prisonnier des barreaux. Voilà.
Il a un cursus universitaire avec un diplôme de philosophie.
Ouais, c'était quelqu'un d'extrêmement brillant. Quand j'écrivais tu me posais la question sur un peu le processus d'écriture tout à l'heure. Quand je me suis vraiment documenté, j'écrivais beaucoup sur lui en fait pour préparer ce livre. J'avais à l'esprit le livre d'un auteur irlandais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ripley Bogle de Robert McLaren Wilson, qui met en fait un personnage un peu comme Elliot Smith en fait, finalement quelqu'un d'extrêmement brillant et qui avait tout pour vraiment réussir socialement et financièrement, et qui a fait le choix en fait du renoncement et d'aucun compromis. Et donc, Ripley Bogle, donc c'est une fiction, mais donc un personnage brillant, universitaire, etc., qui fait le choix de devenir SDF en fait pour finalement découvrir la véritable beauté du monde. Et Elliot Smith, malgré tout, il y a aussi de ça, c'est-à-dire qu'il est diplômé et brillamment haut la main en philosophie. Il a réussi l'équivalent du conservatoire aux États-Unis au piano pour le piano, où en un rien de temps et de manière extrêmement simple. Donc tout ce qu'il a toujours essayé, en fait, il l'a réussi haut la main. Et il l'a jamais ni mis en avant, ni mis en valeur, ni finalement réellement utilisé. Et à chaque fois, ça a été une fois qu'il a réussi à se prouver pour lui-même qu'il en était capable, et il n'a pas été plus loin. Parce que voilà, ça lui suffisait pour lui.
Plus. Ouais. C'est un garçon qui ne rentre pas dans les petites cases, en tout cas. c'est le cas, justement, on disait, un format pop à contre-courant des tendances du moment, le grunge. Le grunge traite du mal-être aussi et du rejet de soi. Tout comme Elliot Smith, sauf que c'est un genre qui fonctionne avec le groupe. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'adresse aux préoccupations d'une partie de cette jeunesse du moment aussi aux États-Unis ? Est-ce que c'est une jeunesse, une partie de la jeunesse qui est un peu désœuvrée ?
Oui, alors quelle jeunesse n'est pas désœuvrée en fait, quelle que soit l'époque. Donc oui, il est issu vraiment de cette période, donc la période du grunge, donc début des années 90. Et lui finalement il a choisi de dire avec douceur, avec calme, finalement plus de retenue, ouais, c'est vraiment le mot. Pour lui il n'y avait pas besoin de violence, il n'y avait pas besoin de rajouter en fait de violence à son propos, puisque elle était déjà contenue en fait dans ce qu'il avait à sortir. Et donc c'était à contre-courant, parce qu'à l'époque personne se présentait sur scène tout seul avec une guitare comme pouvaient le faire donc ses illustres prédécesseurs Dylan, etc., Neil Young, ou personne. C'était vraiment un des rares au début des années 80 à monter sur scène juste guitare voix. Il fallait vraiment tendre l'oreille pour écouter réellement les paroles. D'ailleurs, il n'y avait pas vraiment cette écoute là en fait à l'époque de son vivant, et c'est ce qu'il déplorait vraiment aux États-Unis.
Et il y a eu plusieurs expériences collectives, dont une avec It's Misère, qui ont révélé ses talents de singer-songwriter hors norme, hein, parce qu'on a vu que c'était un génie précoce. Ça s'est passé comment, cette expérience avec de groupe?
C'est une histoire d'amitié, en fait, parce que ça a toujours été quelqu'un d'extrêmement fidèle, donc il pouvait finalement se laisser embarquer dans des projets au-delà même de sa véritable volonté ou de démarche artistique. It's Misère, c'était un groupe qu'il a... Alors avant It Miser, il y a eu plusieurs noms, plusieurs groupes, plusieurs formations avec les personnes qui ont constitué ce groupe, déjà au lycée, à l'université, etc. Et par fidélité, en fait, il a continué comme ça sans avoir plus de lui à mettre dedans. Il n'a jamais aimé en fait faire partie d'un groupe de guitare électrique, de rock abrasif. Et il a continué jusqu'à temps que ça lui soit insupportable. Et sur les dernières années, en parallèle justement des dernières chansons qu'il pouvait composer avec ce groupe, il avait déjà commencé à faire, comme il disait, ses petites chansons acoustiques. Voilà.
Je propose qu'on fasse une deuxième pause musicale avec Elle Strange. Thomas, si tu te sens prêt.
Je suis prêt.
Nous sommes prêts.
Pour le coup, une reprise de Between the Bars.
Drink a baby, stay up all night. The things you could do, you wondered your mind. The potential you'd be, but you never see. The promises you're only made. Drink it with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say and I'll make you okay. And drop them away, the image is stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore. Oh, that push and shoulder and won't bend to your will. I keep them still. Drink a baby, look at the stars. I kiss you again between the bars when I'm seeing you there with your hands in the air, waiting to finally be caught. Drink it one more time and I'll make you mine, keep you upon deep in my heart, separate from the rest. But I like you the best and keep the things you forgot. People you've been before that you don't want around anymore. Oh, that push and shove and won't bend to your will. I keep them still.
Merci Thomas pour cette reprise d'Eliott Smith, extrait de Ever Or.
Pour le coup, ouais.
Pour le coup.
Alors que c'est très bien, dis donc Thomas. Parce que, alors je dis c'est très bien parce que c'est la première fois que je l'entends. On en est. Je considère que c'est comme une rencontre en fait, parce qu'on fait plein de rencontres avec avec pas mal d'amis, dont Yann et Thomas. Et en fait, il a travaillé exprès pour ce soir. C'est la première fois qu'il la chante.
Ah bah merci.
Voilà.
Et, une exclusivité tour de pied.
Super chouette, quoi.
Vous me gâtez. On va revenir donc sur la personnalité d'Eliott Smith. Tu parlais de son expérience de groupe, donc forcément une échappée en solitaire. J'oserais dire que Eliott Smith, et parce qu'il manque rien, et même on l'a vu dans l'interprétation de Thomas, il manque rien. C'est guitare, chant, c'est ouais. Très rudimentaire en apparence en tout cas. Est-ce que c'était pas un groupe à lui tout seul, Eliott Smith? Uniquement cette difficulté dans les relations avec les autres qui le pousse à sortir de ça?
Deux choses. Alors sur la musique en fait, et pour rebondir sur ce que disait Yann précédemment, c'est que c'est faussement simple en fait les compositions d'Eliott Smith.
C'est l'harmonie assez complexe.
Ouais, c'est très complexe en fait. Il y a une technique qui s'appelle le finger picking. Je vais pas forcément parler aussi bien qu'un véritable musicien ou musicologue, mais c'est une technique en fait où on s'accompagne en même temps qu'on fait les accords. Donc il y a plusieurs niveaux en fait de jeu en même temps. À la fois la ligne soliste et l'accord et l'accompagnement. Du coup, tout seul, effectivement, il arrivait à produire des mélodies un peu à part. Je suis un peu troublé parce que donc il y a quand même un autre artiste qui rentre et qui va venir s'asseoir avec nous, je pense. Qui a également en fait fait une reprise dans la compilation Speed Trailers. Et donc voici des conservateurs, monsieur Yann Elias. J'aime bien m'entourer de personnes talentueuses et belles comme lui.
Justement, alors j'en profite d'avoir deux Yann et un Thomas sur le. Quand vous faites les reprises, c'est aussi ça vous paraît, c'est techniquement des choses qui vous paraissent extrêmement compliquées, ou on peut. Il n'y a pas forcément d'avoir besoin d'une grosse technique pour reprendre Eliott Smith.
Bah non, parce que j'ai pas une grosse technique, donc.
Jamais dit ça.
Mais non, ça me paraissait.
C'est pas la taille ni la grosseur, Thomas, en fait. C'est le talent.
Ça me paraissait. Moi, quand Thierry m'a demandé de participer, moi, j'ai tout de suite décidé de jouer des morceaux de Figure Eight parce que c'est un album qui compte énormément pour moi. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même un peu chaud. Et en fait. Je pense que c'est tout le. Après, c'est là aussi où on voit tout le c'est là aussi tout le talent, c'est-à-dire que finalement avec une c'est des morceaux qui je pense qu'ils sont assez facilement réarrangeables parce que comme tu disais il y a tout quoi et en fait une grille d'accords, une mélodie et au final après voilà, je pense que c'est aussi dès lors qu'on se sent touché par une musique, on arrive plus facilement à l'adapter. Mais ça paraissait pas si insurmontable que ça. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on a réussi à retransmettre ce truc. Enfin, je l'espère en tout cas.
Puis dans ce tout, il y a aussi l'expression d'un sentiment universel, forcément. Mm. on revient sur Elliott Smith. La difficulté qu'il éprouve, ce qui est une espèce de pureté quand même dans sa musique, la difficulté qu'il éprouve dans son rapport aux autres et le repli sur lui-même, est-ce que ça expliquerait le caractère pur et parfois enfantin de sa musique? On sent quand même, à la fois, il s'adresse à tous et on sent une grande solitude dans l'œuvre d'Elliott Smith.
Ouais, il y a un côté universel en fait, une volonté comme ça d'universaliser en fait le propos. Et c'est quelqu'un en fait qui s'est jamais vraiment senti à sa place, c'est-à-dire on parlait tout à l'heure du groupe Atmizer, mais il se sentait pas à l'aise comme ça en société, en groupe, mais il se sentait pas forcément à sa place non plus tout seul. Donc il a jamais réussi comme ça à trouver sa manière de procéder, sa place. Donc il y a eu pas mal de tâtonnements. Bon, il se trouve que ça a été en solo où il a finalement obtenu la reconnaissance plus qu'en groupe. D'ailleurs. Alors pour le coup, à contre-courant, on parlait du grunge tout à l'heure, c'était vraiment les groupes, même s'il y avait des figures charismatiques de leaders qui emportaient le tout, lui ça a vraiment été en solo et tout seul qu'il a réussi à se démarquer finalement de bah, peut-être aussi de tout ce qui se faisait à l'époque.
Et alors,
rebondir quand tu parles du fait d'être dans l'universel, je pense que ce que faisait Elliott Smith, ce que font tous les songwriters comme Elliott Smith, c'est qu'il est dans le plus sincère, le plus intime, et quand tu es dans le plus sincère, le plus intime, c'est là que tu es universel. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que dans Hit Miser, il n'était pas lui-même, il n'était pas complètement dans le sincère, et après, visiblement, le premier disque, il l'a enregistré, il voulait pas forcément que ça soit entendu, c'est un truc qu'il a fait pour lui. Donc c'était une sincérité totale, il ne voulait pas forcément, c'était pas été calculé pour parler à tout le monde, et c'est quand tu es dans le plus sincère que tu es dans l'universel. Je pense que c'est ça qui plaît chez les songwriters comme Elliott Smith, il ne fait pas ça pour plaire aux gens, il le fait pour lui-même. Il est dans l'honnêteté totale, avec vachement d'intelligence, de travail sur le texte, etc., les études, etc., les références musicales, mais c'est comme ça que tu es universel, je pense.
Ouais, bah justement, on va voir c'est une démarche tout sauf commerciale. Eve Aurore, publié en 97, que nous aimons tous ici sur ce plateau, même si Thomas préfère Figure 8. C'est le dernier disque artisanal et c'est le premier chef-d'œuvre. Ah, c'est un album qui va rencontrer son public, notamment grâce ou à cause de son ami Gus Van Sant. Ce sera une première reconnaissance pour lui. Comment il va la vivre, cette reconnaissance du public et de la presse et des médias?
Alors, encore un coup, pour prolonger le propos de Yann, en fait, il a jamais fait aucun compromis, il a jamais cherché la moindre reconnaissance du grand public. Du coup, il la comprend pas, en fait, finalement, cette médiatisation et cette pression, ces attentes qui finalement ont porté sur ses épaules après plus de d'exposition. Notamment par ce film, donc Good Will Hunting de Gus Van Sant. Donc, c'est finalement ce qui lui a permis d'accéder à plus de notoriété, de possibilités. C'est également ce qui a commencé à dessiner un peu, finalement, une sorte de, j'aime pas l'expression, mais un peu de descente aux enfers, en fait.
Et il va négocier, alors après, il y a Ever Or, il y a XO qui sort en 98. Quelle différence marquante va le distinguer de Ever Or, cet album XO?
C'est la production, enfin essentiellement, c'est que alors c'est et la production, mais en même temps et le label aussi, parce que c'est vraiment une major en fait sur lequel est sorti XO. Donc Gus Van Sant en fait le connaissait depuis très longtemps. Il fréquentait les mêmes lieux à Portland, accessoirement les mêmes bars. Et Elliott Smith connaissait absolument pas. Gus Van Sant en dehors de cet ami qu'il s'était fait dans les bars. En fait, il ne savait pas du tout que c'était un réalisateur déjà à succès. À l'époque, il avait déjà fait My Own Private Idaho, Boxer Cowboy, donc il avait déjà eu une reconnaissance mondiale, notamment au Festival de Cannes. Et donc voilà, c'était dire aussi la naïveté et finalement la sincérité d'Eliott Smith, c'est qu'il n'a jamais approché qui que ce soit par intérêt ou parce qu'il disait que ça pouvait lui apporter quoi que ce soit. Et c'est Gus Van Sant, en fait, qui trouvait que c'était injuste, finalement, qu'Eliott Smith n'ait pas cette reconnaissance et cette possibilité, comme ça, de faire découvrir au plus grand nombre sa musique, de rencontrer un plus large public, d'avoir des plus grands moyens pour faire des disques, peut-être, de production un peu plus importante. Et il lui propose de faire une chanson, en fait, pour son film en construction à l'époque, donc Good Will Hunting. Et Eliott Smith lui dit qu'il n'a jamais su faire ça, qu'il ne le saura jamais, c'est-à-dire écrire pour quelqu'un ou écrire sur une commande.
Et il écrit pour lui-même,
il écrit. Smith, hein. Il sait faire que ça. Ça vient que de là. Et donc, du coup, à la base, Gus Van Sant accepte de piocher un peu dans le catalogue, entre guillemets, d'Eliott Smith. Donc, notamment donc, l'album Eyes Are Or et également le deuxième album d'Eliott Smith, donc éponyme, qui s'appelle donc Eliott Smith. Et malgré tout, Gus Van Sant revient à la charge comme ça et il lui dit, mais c'est quand même dommage parce que c'est important malgré tout d'avoir une composition originale ou en tout cas étiquetée originale, notamment pour la cérémonie des Oscars. Il y a beaucoup plus d'exposition et de médiatisation en fait sur une chanson qui a été faite ou en tout cas revendiquée comme telle spécialement pour le film. Et du coup, Eliott Smith reprend une des démos qu'il avait commencé, qu'il avait déjà travaillé pour d'autres albums, Miss Misery, qui n'avait rien à voir à l'époque, et il en propose une nouvelle version qui est donc dans le film, et qui sera le titre qu'il interpréta sur la grande scène des Oscars en 98, et qui lui fera accéder à l'exposition mondiale et internationale, et qui va changer quelque part sa vie, à la fois artistique et personnelle.
Et il va signer, tu disais, une grosse firme, c'est DreamWorks, pour un artiste issu de la contre-culture américaine comme Eliott Smith, ça doit être terrible. C'est un coup de grâce
Non, alors parce forcément. Qu'en fait, il s'en est jamais remis à personne, si ce n'est lui-même, pour ses choix. Donc, c'était vraiment en connaissance de cause s'il le faisait. Donc, c'était aussi des rencontres. L'arrivée chez DreamWorks, en fait, pour lui, il y voyait une possibilité, en fait, de rêver plus grand. Je parlais des Beatles, donc un de ses groupes vraiment de prédilection. Et pour lui... Il avait envie de grandes envolées lyriques, plutôt sur la fin des Beatles, avec les grands murs de son, les grandes compositions, les grands arrangements. Et il n'y avait que comme ça, en fait, qu'il pourrait accéder, en fait, à ce rêve. Et notamment, après, il a pu enregistrer quelques titres à Abbey Road, donc le studio mythique des Beatles, et avoir des orchestrations, des arrangements bien plus supérieurs, importants que ce qu'il aurait pu faire.
Digne de ses ambitions d'artiste.
Absolument, ouais. Et voilà, c'est ce qui a amené finalement donc Eyes Are Or, qui était déjà un album de transition où il commençait à mettre de la batterie, de la basse, qui n'était pas présente dans les deux premiers albums, avec des refrains un peu plus entêtants, un peu plus pop, un peu moins son, un peu moins rêche. Donc il y avait déjà une marge de gravier sur XO. On est vraiment sur une production plus importante avec vraiment des arrangements et des compositions beaucoup plus accrocheuses. Et après, on arrive à l'album préféré de Thomas, qui est Figure 8, où là, on est carrément dans le mur de son, la Phil Spector, où il y a déferlement de pistes, d'arrangements, de cordes, d'orchestration, comme à ne plus savoir qu'en faire. Et même lui, en fait, était perdu là-dedans. Parce que quand on est le seul maître à bord et finalement le seul à savoir réellement ce qu'on a envie, et ben, on se retrouve un peu finalement seul. Et Figure 8 a pris beaucoup de temps à être réalisé. Et une fois l'album sorti, lui-même, en fait, finalement, on est revenu et se disait que l'album qu'il souhaitait faire après, donc il n'aura pas eu le temps de le faire de son vivant, mais c'était finalement plutôt les premiers albums minimalistes et épurés du début. Je disais tout à l'heure, ce qu'on fuit, c'est pour mieux y revenir. Et ça s'est aussi avéré vrai en termes artistiques et musical pour Eliott Smith. C'est qu'il s'est rendu compte, après tout... toute la démesure de moyens financiers, de production, que c'est dans le plus grand dépouillement qu'il était le plus j'ai perdu le mot, le plus tu couperas au montage, ouais, le plus sincère, enfin, le plus vrai par rapport à lui-même.
Et ben, on va faire une petite pause encore musicale avec My North Eye.
Alors ok, je me rapproche un peu. Alors du coup, moi, j'ai fait ma seule reprise de Eliott Smith. Alors, je vais vous faire une chanson de... En fait, avec Thierry et Thomas, On est parti 6 jours en Belgique.
Le bon matin.
Voilà, et on a fini à 5 jours en Belgique, et après on s'est retrouvé à Lille. Et tous les soirs, on jouait une reprise ou plusieurs de Elliott Smith, des chansons à nous qui entrent en écho avec celles d'Elliott Smith. Donc Thierry me disait, celle-là, j'aimerais bien que tu la joues. C'est une chanson que j'ai pas encore enregistrée, que j'ai enregistrée justement, que j'avais écrit dans les années 90 sur ma mère. Voilà. Et donc Elliott Smith, visiblement, a écrit plein de chansons. Par rapport à sa mère, notamment Waltz 2, qui est, il y a un karaoké au Texas avec son beau-père, etc. Voilà, donc, on parlait d'intime, donc voilà, c'est personnel, mais en même temps, c'est une chanson qui, moi, me reparle maintenant, parce que c'est une chanson que j'écris il y a plus de 20 ans, et donc maintenant, elle me parle plus de moi que de ma mère, voilà.
Can see it in your eyes. You're so like me, I can feel it inside. Yearning back towards your past, and all has just been a flash in the pan. Don't you think that I can read the wrinkles on your face? You wake up, you're 50, you're frumpy, you're fat, and nobody ever sees that you're none of that. And your excesses annoy everyone. You're not meant to be young when you're 51. You give me so much more than I can give you. You give me so much more. You give me so much more than I can give you. You give me so much more. Sometimes you feel like a piece of furniture. You strive to fill the void of your own life. Sometimes you feel like a piece of furniture. You strive to fill the void of your own life. And some people play the pools, the lottery, go bake some cakes, do some gardening. But you talk of revolutions all across the land. And you crave, and you crave, and you dream. And your excesses annoy everyone. And you're not meant to be young when you're 51. You give me so much more than I can give you. You give me so much more. You give me so much more than I can give you. You give me so much more. This one-way relationship is not something to sustain, let alone something to improve, least of all something to work on. You like the air they breathe, like the soil under their feet. And when they come home, they don't want to prove anything. There's a war raging out there. You give me so much more than I can give you. You give me so much more. You give me so much more than I can give you. You give me so much more. Say, I'd like to sing you a song so sweet and gentle that it might cheer you up and make you understand you're the nicest piece of furniture I've ever come across. In this old life, this old life, this old life, this old life.
Merci Yann. My North Eye pour ce magnifique morceau, empreint de mélancolie, et une émission qui touche déjà malheureusement à sa fin. Ça passe vite avec vous et avec Elliot Smith. Donc la préfigure 8, d'ailleurs qui devait s'appeler Place Pigalle, Thierry, j'en profite. Il y a un lien quand même qui relie Elliot Smith à la France.
Oui, ouais, c'est une partie aussi à la fin du livre où justement je mets un peu en, voilà, en valeur, en exergue l'attachement qu'Eliot Smith avait pour la France. Alors pas que par rapport à la personne qu'il a rencontrée, avec qui il a vécu une idylle pendant quelques mois, qui lui a inspiré quelques titres de figure 8, mais aussi le rapport à la langue. Où, tout à l'heure je disais qu'il déplorait qu'aux États-Unis, à l'époque, on s'attache pas tant que ça à écouter en fait l'artiste qui vient chanter de manière dépouillée des chansons. Il appréciait ça beaucoup en France, c'est qu'il y avait une importance pour les mots et aussi pour l'écriture. Voilà. À l'époque, en tout cas de son vivant, il y avait plus un projecteur sur la musique abrasive et violente, donc l'époque du grunge.
On parlait du grunge, ouais.
Que vraiment le retour, le revival au songwriting et à la folk en fait, qui aujourd'hui est beaucoup plus populaire qu'elle n'était, quoi.
Ouais, c'était aussi peut-être couvert par le grunge qui commençait à devenir presque un phénomène de société mondiale. Ouais. Alors voilà. Que le rêve vit à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. On va rendre l'antenne dans quelques minutes, l'occasion pour présenter aussi donc Thomas. Il y aura peut-être deux titres qui est sorti de Hell Strange.
Ouais.
Les projets pour toi.
Les projets, c'est de continuer à enregistrer. Sur ce disque, c'est un peu produit dans le sens où j'aurais rêvé de faire un album comme Figure 8, justement, un truc. Mais pour le coup, je n'ai plus de groupe, donc je suis tout seul. Donc là, je vais faire quelques dates. On va continuer à faire quelques dates déjà autour de la promotion et les rencontres autour du livre d'Eliot Smith. Et notamment là, encore au mois de juin, on va reprendre en septembre-octobre, je crois. Moi, je joue en solo pour le coup. Je cherche des dates d'ailleurs. Je profite de ton antenne pour dire que sur fin septembre, notamment, je vais essayer de bouger un peu dans le nord de la France et puis plus loin si possible et dans la région si possible. Et voilà. Et voilà. Normalement, enregistrement de nouveaux titres pendant l'été, si tout va bien.
Yann,
moi, je vais chercher mes dates sur mon téléphone. Je sais pas trop. Non, voilà, donc
le 28 mai aux trois pièces.
Voilà, donc en fait, ouais, donc je continue autour du livre de Thierry des dates pendant que mes messages arrivent.
Il y a beaucoup de textos, dis donc. Ouais. Beaucoup de fans qui apprécient, qui font des bons retours.
Et non, voilà, donc moi, je viens de sortir un disque, mon troisième album en tant que Mino Fai, donc avec un très beau visuel de Yann Elias, Hugo Acid et des conservateurs, une belle route qui doit se trouver quelque part dans le 2-7. Et voilà, donc c'est un album guitare-voix-violon, voilà, que j'ai enregistré en 2011 et que je sors en 2019, c'est logique. Voilà, ça peut l'écouter sur Bandcamp et sur un micro-label anglais, voilà, à vous de chercher. Voilà. Et puis, quelques dates, je vous dis tout ça tout de suite quand j'aurai mon téléphone va me rassurer sur les dates. Alors. Et je sors aussi une cassette, split cassette avec le Go Acid, face A, face B. Moi, je ferai un drone d'harmonium.
Yann, si tu veux en dire quelques mots. L'autre Yann. Hein.
Yann. Alors, tu vas m'engueuler parce que je n'ai pas encore enregistré.
Oui, bonsoir.
Salut Yann.
Non, c'est parce que l'année dernière, en fait, avec Yann, on est parti faire quelques dates. Et puis, dans la voiture, on discute. Et voilà, on s'est dit, tiens, on va faire un split de drone. Une face drone et une face A drone, une face B drone, mais chacun son drone. Donc voilà, nous, avec le Go Acid des conservateurs, on a bossé le truc, on a enregistré, que c'est pas vraiment un drone finalement, mais bon. Et donc Yann va certainement enregistrer un drone à l'harmonium prochainement. Voilà.
Il faudra y aller. Thierry, je vais. On va clore sur la partie de ton livre, donc Figure 8, c'est, même si ça débarque un peu en désordre là. Figure 8 sort en 2000-2001. Est-ce qu'on peut estimer qu'Eliot Smith est un peu au creux de la vague et un peu dans la descendante personnellement?
Alors, au creux de la vague, c'est un moment où il est perdu.
C'est un grand moment de souffrance en tout
cas. Ouais, où il est vraiment perdu là pour le coup. On parlait d'addiction. En fait, Il n'y avait pas tant que ça une présence aussi accrue et prépondérante des drogues et de l'alcool avant vraiment cette période de surmédiatisation où 2000-2001, c'est l'époque où vraiment il tombe, je pense, le plus bas en termes de morale et de dépendance. Et il se perd complètement, donc il devient parano, alcoolique, héroïnomane, pardon. Et du coup, l'album suivant, finalement, tarde tellement à venir qu'il ne viendra jamais. Mais beaucoup de chansons sont écrites, composées, mais il arrive avec grand mal à les finir, en fait, ces chansons.
Voilà. Et bien, sur un pied, on le retrouve donc mort en 2003 de manière un peu mystérieuse. Mm. Ça n'a pas été très élucidé, de coup de couteau.
Oui, c'est ça, en fait. Alors, donc, affaire jamais classée. Du coup, j'en parle. Enfin, c'est deux pages, trois pages, je sais pas, dans le livre. C'est pas du tout le propos, mais
non, c'est pas du tout le propos.
C'est important de. Bah, je raconte. Je parlais d'histoire, de finir l'histoire. Donc, l'histoire se finit comme ça. Donc, en octobre 2003, où on le retrouve effectivement mort des suites de deux coups de couteau, en fait, en plein cœur. Aucun rapport ne permet de conclure à la thèse d'un meurtre ou d'un suicide. Voilà, ça reste un peu inexpliqué, etc. Alors après,
c'est un mystère qui est jusqu'au bout, qui entoure le mythe d'Eliot Smith.
Forme de fantasme et de voilà.
Et ben, il va être temps pour moi de vous remercier tous les trois. Thomas, est-ce que tu nous jouerais un dernier morceau pour clore cette émission?
Mais si tu le demandes.
Je remercie les auditeurs pour votre fidélité, votre écoute. Merci Thierry, merci Thomas, merci Yann.
Merci beaucoup.
On se retrouve dans 15 jours. On se quitte avec.
Can't Make a Sound, le titre du livre de Thierry et de mon titre préféré sur Figure 8. Et hop, j'en remets une couche.
Bonne soirée à tous.
I have become a silent movie. The hero killed the clown. Can't make a sound. Can't make a sound. Can't make a sound. Nobody knows what he's doing. Still hanging around. Can't make a sound. Can't make a sound. Can't make a sound. Can't make a sound. The slow-mo moves me. The monologue means nothing to me. Body comes down, standing up to sit back down. Lose the one thing found. Spin in the world like a turtle. There's a ghost in every town. Can't make a sound. Can't make a sound. Can't make a sound. Can't make a sound. Eyes long and shiny. Can you tell me what's happening? Why should you want any other when you're a world within a world? Why should you want any other when you're a world within a world? Why should